La liberté humaine qui ne meurt pas poursuit son affranchissement de l'Égypte à la Judée comme de l'Inde à la Perse. L'Égypte est le don du Nil. C'est le fleuve qui a apporté de l'Éthiopie, non seulement les hommes et la civilisation, mais la terre elle-même. Le grand Albuquerque conçut, au XVIe siècle, le projet d'anéantir l'Égypte. Il suffisait pour cela de détourner le Nil dans la mer Rouge. Le sable du désert eut bientôt enseveli la contrée. Tous les étés, le fleuve, descendant des monts inconnus, vient donner la subsistance annuelle. L'homme qui assistait à cette merveille précaire à laquelle tenait sa vie même était d'avance vaincu par la nature. La génération, la fécondité, la toute-puissante Isis domina sa pensée et le retint courbé sur son sillon. Cependant, la liberté trouva déjà moyen de se faire jour. L'Égypte, comme l'Inde, la rattacha au dogme de l'immortalité de l'âme. La personnalité humaine, repoussée de ce monde, s'empara de l'autre. Quelquefois, dans cette vie même, elle se souleva contre la tyrannie des dieux. Les deux frères, Khéops et Képhrem, qui défendirent les sacrifices et furent maudits des prêtres, passent pour les fondateurs des pyramides, ces tombeaux qui devaient éclipser tous les temples. Ainsi, le plus grand monument de ce monde fatal de l'Égypte est la protestation de l'humanité. Mais la liberté humaine ne s'est point reposée avant d'avoir atteint dans sa fuite les montagnes de la Judée. Elle a sacrifié les viandes et les oignons de l'Égypte et quitté sa riche vallée pour les roches du Cédron et les sables de la mer morte. Elle a maudit le veau d'or égyptien comme la Perse avait brisé les idoles de l'Inde. Un seul dieu, un seul temple. Les juges puis les rois dominent le sacerdoce. Élie et Samuel veulent faire régner le prêtre et n'y parviennent pas. Les chefs du peuple sont les forts qui la franchissent de l'étranger. Un Gédéon et ses 300, un Naoth qui combat des deux mains, un Samson qui enlève sur ses épaules les portes des villes ennemies, un David qui n'hésite point à manger les pains de proposition. Et à côté du génie héroïque, le sacerdoce voit la liberté humaine lui susciter un plus formidable ennemi dans l'ordre même des choses religieuses. Les voyants, les prophètes s'élèvent du peuple et communiquent avec Dieu sans passer par le temple. La nature, chez les Perses, prolongeait non sans combat son règne dans la religion. Elle est détrônée chez les Juifs. La lumière elle-même devient ténèbre à l'avènement de l'esprit. La dualité cède à l'unité. Pour ce petit monde de l'unité et de l'esprit, un point suffit dans l'espace entre les montagnes et les déserts. Il n'est placé dans l'Orient que pour le maudire. Il entend, avec une égale horreur, retentir par-dessus l'âpre Liban les chants voluptueux d'Astarté et les urgissements de Moloch. Qu'au midi viennent la horde errante de l'Arabe, sans demeure et sans loi, Israël reconnaît Ismaël pour son frère, mais ne lui tend pas la main. Périsse l'étranger. La ville sainte ne s'ouvrira pas. Il lui suffit de garder dans son tabernacle ce dépôt sans prix de l'unité que le monde reviendra lui demander à genoux quand il aura commencé son œuvre dans l'Occident, par la Grèce et par Rome.